Bonjour Nicolas Quesnel.
Bonjour.
Ce livre est le fruit d'une enquête de plusieurs années sur les opérations d'influence russe en France. Vous racontez que cette guerre de l'information a pris de l'importance pendant la crise du Covid.
Elle a pris de l'importance pendant la crise du Covid, ou en tout cas on a vu le retour de ce sujet médiatiquement pendant la crise du Covid, notamment à la lumière d'un événement d'actualité qui était le fait qu'un youtubeur, précisément, avait été abordé par une entreprise qui se prétendait anglo-saxonne mais qui était en réalité russe pour faire de la désinformation. On lui proposait d'être payé pour faire de la désinformation sur les vaccins de Pfizer. Et c'est justement à partir de ce moment-là, on va dire, qu'il y a déjà eu un petit retour sur la scène médiatique du sujet de la guerre de l'information.
Et ce youtubeur a ensuite été approché pour d'autres sujets.
Il a ensuite été effectivement approché pour d'autres sujets. Un an plus tard, avec le début de la guerre en Ukraine, une autre entreprise est venue le voir, se prétendant encore anglo-saxonne, mais qui était encore russe toujours, lui a proposé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour diffuser sur sa chaîne YouTube, qui comptait plus d'un million d'abonnés, selon dans mes souvenirs, de la propagande russe pure et dure, expliquant que, évidemment, la Russie n'avait rien à voir avec tout ça, elle ne faisait que se défendre, etc., etc. Enfin, les classiques de la propagande russe par essence.
Pour les besoins de votre enquête, vous avez infiltré une chaîne Telegram de propagande russe avec un collègue et vous avez été embauché assez facilement alors que vous ne parlez pas russe. Expliquez-nous comment ça s'est passé.
Écoutez, Google Traduction a suffi. Donc je me dis qu'il y a du relâchement en termes de politique de ressources humaines parce que ça a été assez facile de me faire recruter au final. C'était même, je pense, l'entretien d'embauche le plus facile de ma vie parce qu'il m'a suffi d'avoir un outil de traduction instantané pour faire croire que je parlais la langue de Tolstoï et de toute façon, de ce que j'ai compris, la Sainte Rodina ne s'embarrassait pas de savoir si on était vraiment très compétent, il cherchait des petites mains. Et effectivement, c'est comme ça que je suis devenu, entre guillemets, propagandiste russe, ou en tout cas que j'ai réussi à infiltrer ce canal Telegram, sur lequel mon activité a été évidemment très modérée pour des raisons déontologiques qui sont très évidentes dans l'absolu. Mais oui, ça a été assez facile et étonnamment de les infiltrer. Je m'attendais à plus de résistance ou plus de barrières à l'entrée, quoi.
Que savez-vous de vos employeurs ?
Ben on ne sait pas grand-chose. De nos employeurs, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait surtout, et ce qui est surtout très intéressant selon moi, c'était de regarder un petit peu les profils des gens qui étaient embauchés, comme moi, au sein de la société française, et en tout cas des francophones, plus largement. Et en fait, on se rendait compte de quelque chose qui, à mon sens, est assez évocateur, c'est que les catégories socio-professionnelles sont très différentes. On avait de l'ouvrier au CSP+, dans le jargon. Mais en fait, la seule chose qui unissait vraiment ces gens-là, surtout, c'était la défiance envers les institutions et envers notamment les médias, évidemment.
Alors, il faut préciser que ce ne sont pas forcément les services secrets russes ou le Kremlin, pour parler schématiquement, qui mènent ce genre d'opération. Il y a bien d'autres acteurs. Pour autant, est-ce qu'on peut affirmer que ces acteurs agissent de manière vraiment autonome ?
Pour certains, oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle des entrepreneurs d'influence qui agissent de manière parfaitement autonome. Même pendant très longtemps, on a eu des cas de Russes un petit peu fortunés, plus ou moins fortunés, qui se vantaient dans des dîners à Moscou d'avoir lancé un réseau de propagande en Afrique, notamment parce que ça coûtait pas cher, dans le simple but d'en tirer un bénéfice, même pas financier, mais un bénéfice soit politique, ou même parfois on est tombé sur des gens qui avaient juste pour ambition de se faire mousser dans des soirées moscovites. Ça aussi, ça arrivait. Et on a un écueil, c'est qu'on pense toujours que les opérations d'influence qui visent la France ou qui visent n'importe quel pays d'ailleurs, c'est forcément le Kremlin qui est derrière. Non, en fait, une ligne directe avec le Kremlin, c'est plus que extrêmement rare. La plupart du temps, c'est surtout faire l'économie de penser qu'il y aurait quelqu'un d'autre que Poutine à avoir un agenda en Russie. D'autres gens ont des intérêts en Russie à défendre et à partir de là, tous les scénarios sont envisageables.
Mais il leur ressort parfois, à vous lire, une impression de manque de professionnalisme, voire d'amateurisme dans ces opérations.
Ah non, mais il y a un clair manque de professionnalisme, ça c'est évident. La plupart du temps, on parle quand même de gens qui sont payés fondamentalement en Russie pour mener ces opérations. Une misère, ça donne pas envie d'être très précis, très très besogneux, etc. Donc oui, partant de là, oui, il en ressort souvent une impression que on a affaire souvent à des amateurs. C'est pas pour autant qu'ils sont pas dangereux.
Nicolas Quesnel, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Allô Paris, ici Moscou, aux éditions de Noël.
Merci beaucoup.